Les Beaux Rôles est une idée originale d'Immersion CP. La série Balado propose un parcours d'insertion professionnelle des CP de l'enseignement supérieur à travers l'angle de la compétence numérique.
Si ça peut aider à évaluer vraiment plus le savoir que les connaissances des étudiants, ça va pousser tout ce qu'on prône comme CP d'aller chercher plus loin que du par cœur, d'aller valider la logique, d'aller valider l'application des choses.
Devenir conseiller ou conseillère pédagogique de l'enseignement supérieur, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. C'est un métier qui s'apprend en le pratiquant. Je m'appelle Géraldine Hussier, je suis CP programme au Collège Montmorency à Laval depuis moins d'un an. Vous écoutez la série Les Beaux Rôles. Je pars à la rencontre de collègues d'un peu partout au Québec et je cherche des repères pour m'approprier mon nouveau rôle de CP. L'évaluation, ça a toujours été un sujet chaud dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, plus que jamais, les enjeux liés à l'inclusion et à l'intelligence artificielle nous poussent à revoir nos façons de faire. Moi, en ce moment, j'ai à réfléchir avec des profs sur la façon de créer des évaluations plus inclusives. Je vous avoue que ce n'est pas si simple. Je suis encore en train d'essayer de me faire une tête sur la question. Et il y a aussi les robots conversationnels comme ChatGPT qui suscitent évidemment toutes sortes de craintes, telles que le plagiat et l'intégrité intellectuelle. Personnellement, je sens le besoin de m'approprier ces nouveaux outils pour mieux les comprendre et bien les utiliser. Donc, je me demande, dans un contexte aussi évolutif, comme CP, comment on fait pour bien conseiller les profs? J'ai déjà hâte de retrouver mes collègues du cadre de porte pour nourrir ma réflexion sur le sujet. Alexandre Dalpan, du Cégep Garneau, est fidèle au poste, comme d'habitude. Marjolaine Lewis aussi, sauf qu'il y a du nouveau dans sa vie professionnelle. Vous savez, Marjolaine était CP à l'ETS, je dis « était » parce qu'elle est maintenant directrice adjointe à l'enseignement au Collège de l'immobilier du Québec.
Le cadre de porte.
Bonjour Marjolaine, bonjour Alexandre.
Salut.
Bonjour madame. En forme?
Ben oui, vous allez bien?
Ben oui, vous?
Très, très bien.
D'entrée de jeu, Marjolaine, j'aimerais te féliciter pour ton nouveau poste.
Merci.
Hey, bravo, c'est vrai.
Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire le saut?
Bien, en fait, j'ai beaucoup hésité parce que j'aimais beaucoup mon travail. J'avais une belle équipe, des beaux défis d'accompagner les professeurs. Mais on m'a offert une opportunité avec encore plus de défis. Puis le rôle de gestion m'intéressait énormément. Alors, j'ai fait le saut, puis j'aide encore les enseignants à mieux enseigner. Fait que je reste dans le domaine, mais avec une petite marche à l'avant où je deviens gestionnaire. Je
suis bien excellent, bravo.
Hey, bien heureuse pour toi. Je te souhaite des beaux défis, prestigieux.
Oui.
Mais c'est sûr que tes compétences vont être remises au goût du jour par rapport à ton nouveau travail, c'est certain. Puis c'est quand même bluffant quand tu vois des fois le chemin que font les CP, de là où tu es parti, là où tu rentres maintenant. Puis c'est sûr, je trouve ça fascinant le chemin qu'on fait pour les professionnels là-dedans. Fait que bravo.
C'est vraiment l'étape suivante que je m'étais ciblée. Fait que je suis rendue là. Je suis super contente. Merci.
Super. Merci aussi de continuer à,
oui,
à faire le balado avec
je
nous.
Je ne laisserai pas
de partager ton expérience. Donc, c'est très apprécié. Merci. Revenons au sujet d'aujourd'hui. On va parler d'évaluation.
Hey,
donc, oui, je le mentionnais au début de l'épisode. Moi, j'ai à réfléchir en ce moment à différents enjeux qui concernent l'évaluation, dont l'inclusion. Donc, les profs, faut qu'ils adaptent leur évaluation pour qu'elle soit plus inclusive, que ça réponde aux différentes caractéristiques là, des élèves. Puis, c'est pas toujours simple. Ils ont souvent l'impression de niveler vers le bas les exigences.
Ouais.
Donc, des fois, je trouve pas ça facile de les accompagner. Donc, moi-même, je me questionne beaucoup. Donc, j'aimerais savoir, vous, c'est quoi vos principales préoccupations? Qu'est-ce que vous entendez là, de la part des profs? C'est quoi les principales préoccupations des profs?
Ouais. Ben, moi, ce qui est sûr de mon bord, si j'y vais, là, c'est le côté « c'est compliqué ». C'est compliqué de faire dans l'évaluation tout le temps inclusive. Et, fait que il peut y avoir un défi, c'est sûr, mais à un moment, il y a le numérique qui va aider beaucoup là-dessus. Mais encore, faut-il connaître les outils disponibles et s'y intéresser un temps soit peu. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours un enjeu. Puis en tant que CP, il y a aussi le défi institutionnel. Des fois, il y a nos patrons qui arrivent avec des décisions, des directives, puis des fois, on n'est pas toujours d'accord pour X raisons. Ça peut être frustrant pour certains, certaines. Fait qu'il y a quand même, c'est un gros dossier que les CP doivent mener dans leur rôle à eux, puis l'accompagnement qu'ils font avec les profs. Ouais.
OK. D'autre côté?
Ben moi, j'ai peu touché. Puis tu sais, on parle de l'évaluation, mais c'est aussi juste l'enseignement, là, ajuster tes PowerPoint, ajuster ton texte pour que ça soit inclusif. Alors nous, on n'était pas rendus là, mais on se fie sur nos universités sœurs qui, eux, ont déjà des programmes qui sont avancés à ce niveau-là. Fait qu'on on offre leur matériel à ceux qui ont besoin de ce support-là, mais j'ai peu eu de demandes en ce sens-là. J'ai pas eu le temps encore de toucher à ça.
Ça va sûrement venir?
Oui, c'est ça. Pour le moment, je me concentre sur autre chose.
OK, maintenant, j'aimerais qu'on vous entende sur le sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment.
Oh, attention.
Chat, GPT. Vous en doutiez, hein?
Oui.
Est-ce que vous l'utilisez dans votre pratique là, comme CP? Alexandre?
Ben, écoute, pas forcément quotidiennement, mais c'est sûr que de plus en plus, tu sais, ça pop à l'esprit. Tiens, je pourrais peut-être essayer avec ça. Fait que c'est pas un réflexe, mais de temps en temps, ben, j'y vais l'essayer. Puis c'est vrai que les fois où je l'ai essayé, ben, j'ai l'impression d'avoir sauvé beaucoup de temps. Parce que des fois, le côté réflexif de ne pas partir de la page blanche, on arrive, on a un texte, on est capable de retravailler. Puis le seul petit bémol, ben, c'est comme un nouveau joujou. Des fois, on perd un peu de l'esprit l'objectif initial. On commence à converser avec lui. On dérive. Puis là, on perd un peu de temps, mais c'est quand même un truc intéressant. Puis il y a tout un enjeu derrière pour accompagner les profs, c'est sûr. Ouais.
OK. De ton côté?
Ben, moi, je vais être plate. Je peux.
C'est correct. Pas, ben, c'est ça, mais cette situation-là.
C'est ça. J'ai la curiosité, mais je n'ai pas eu de sollicitation en ce sens-là. Puis à l'ETS, c'était vraiment axé sur la pratique, sur la logique, sur la science, les mathématiques. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être moins un sujet qui était chaud quand j'étais là. Alors, même personnellement, j'ai essayé un petit peu, là, mais j'ai pas le temps.
C'est très de base, là. Je vais l'utiliser pour enrichir mon vocabulaire, générer des idées, là, des fois avec des... J'ai dû accompagner, par exemple, une prof pour faire un guide des attitudes professionnelles.
Okay.
Puis on avait besoin de jus un petit peu, là. Donc, on voulait trouver des indicateurs différents. Puis on s'est lancé avec ChatGPT, puis ça a quand même été très utile. Ça nourrit.
C'est ça.
C'est encore très exploratoire.
Ça rajoute un petit cerveau à l'équipe.
C'est comme une autre personne de plus autour de la table.
Des plans cadres, faire des activités
oui,
pédagogiques.
Des critériés,
des recettes le dimanche soir quand on ne sait plus quoi manger.
Ah, ben j'irai là-dessus,
j'y ai pas pensé.
En tout cas, il y a plein de diversité là-dessus.
Justement, l'intelligence artificielle, à votre avis, ça va être quoi son impact sur l'évaluation? Ça aussi, c'est une grande question.
Oui. Ben moi, personnellement, en tant que CP numérique, là, je ne pense pas que ça va changer grand-chose concrètement, dans le sens où ça fait réagir beaucoup les pédagogues, parce qu'il y a beaucoup de changements à venir avec ça. Mais il y a plus, en tant que CP, il y a une gestion de l'humain, des émotions de l'humain. Et là, de la réticence face au changement. On a accepté de faire différemment aussi. Il faut revoir un peu ces évaluations. Donc, c'est sûr que pour moi, le deuxième point, c'est de développer la littératie numérique. Il va falloir que les gens développent ces compétences, que nouvelles compétences numériques liées à l'intelligence artificielle. Puis c'est sûr que ça vient... Moi, je trouve que ça relance le débat. Le débat qui est toujours là, mais là, ça l'impose, le débat de réflexion autour d'évaluation. T'sais, on est tous au pied du mur numérique, comme je dis. Là. Puis là, on doit comme se lancer là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement? Parce que les outils sont là, puis on doit faire avec.
OK.
Ben c'est ça. Puis moi, je suis un petit peu dans le même sens qu'Alexandre. Puis comme je disais tantôt, je connais peu ça. Fait que c'est dur de me prononcer sur quelque chose que j'ai pas apprivoisé encore. Mais moi, je me dis, ben si ça peut aider à évaluer vraiment plus le savoir que les connaissances des étudiants, ça va pousser tout ce qu'on prône comme CP d'aller chercher plus loin que du par cœur, d'aller valider la logique, d'aller valider l'application des choses. Fait que c'est pas une mauvaise chose, mais c'est un changement. Fait que c'est sûr que personne ne prend ça avec gros bonheur, j'imagine.
Ça
moi aussi, après. Oh, excuse-moi, vas-y.
Non, ça prend de l'accompagnement, en fait.
Oui.
C'est juste c'est ça.
Ben, c'est ça. Je pense qu'à très court terme, moi non plus, je n'ai pas l'impression que ça va bouleverser tant que ça. Mais je pense qu'inévitablement, les profs vont devoir se questionner là, sur leur pratique, comme c'est toujours le cas. Il y en a qui vont saisir l'opportunité, vont se dire « Ah, c'est un bon moment pour repenser tout ça, repenser l'évaluation. » Ceux qui préfèrent le statu quo, ils vont se sentir dépassés rapidement, puis probablement, ils vont se laisser porter par ça. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils réagissent. Et qui va être là pour les aider?
Les CP!
Les CP! donc, clairement, c'est un sujet qu'on n'a pas fini d'entendre, qui va soulever encore bien des passions. Donc, merci d'être là pour m'accompagner dans ce questionnement-là. À la prochaine!
Merci!
À bientôt!
Bye!
Maintenant, quels sont les enjeux éthiques à considérer avec l'utilisation de l'intelligence artificielle? J'en discute avec Louis Normand, CP au Collège Rosemont à Montréal depuis 3 ans. Il a enseigné la physique dans le réseau collégial pendant 25 ans. Comme CP, Louis œuvre aujourd'hui au service des programmes et de l'innovation pédagogique. Il a notamment participé à la rédaction de la trousse « Intégrer l'éthique de l'IA en enseignement supérieur ». Louis Normand, bonjour!
Allô?
Merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais qu'on débute l'entrevue en parlant d'intelligence artificielle et d'évaluation. Mm-hmm. C'est quoi, selon toi, les principaux enjeux éthiques que soulève l'IA en lien avec l'évaluation?
Bien, en fait, le premier enjeu qui est soulevé par les profs là, qu'on rencontre, qui viennent nous voir là, pour justement discuter d'intelligence artificielle en éducation, c'est tout ce qui est en lien avec la propriété intellectuelle puis l'honnêteté okay. intellectuelle. Bon, on sait, pendant la pandémie, là, cet enjeu-là a été soulevé là, souvent. Puis, bien entendu, avec les robots conversationnels, là, on sait que... les étudiants peuvent générer un paquet de textes dont ils ne sont pas l'auteur. Puis aussi, il y a la question, ça c'est la question d'honnêteté intellectuelle, mais il y a aussi la question de propriété intellectuelle parce que quand on utilise un extrait, par exemple, d'un robot conversationnel, ça appartient à qui? Cet extrait-là, mm-hmm. oui. Et donc là, ça pose vraiment plusieurs enjeux éthiques. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu que les profs aussi voient, c'est tout l'aspect esprit critique. Parce que l'information, puis on l'a vu dans les médias, l'information qui est générée par les robots conversationnels n'est pas nécessairement toujours juste. Donc, il y a toujours une contre-vérification des faits, donc une forme de création, créativité qui est faite. Puis, forcément, les étudiants pourraient utiliser ces textes-là. Puis, en fait, c'est pas juste.
C'est pas juste, moi,
il y a toutes sortes de biais, juste pas exact. Mm-hmm. Il y a toutes sortes de biais aussi qui sont là. Donc, il faut avoir un esprit critique pour bien utiliser ces outils-là. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, ce sont les données personnelles. Ce que les gens ne se rendent pas compte, bien, en tout cas, il y en a sûrement qui s'en sont rendus compte, mais quand on met des choses dans un robot conversationnel, ces informations-là servent aussi à entraîner l'intelligence artificielle, puis conséquemment, on leur fournit de l'information. Des fois, c'est banal, c'est anodin, mais je pense entre autres à une utilisation qui est faite en informatique. Nos étudiants l'ont utilisé, ils mettent du code informatique pour avoir des réponses de robots conversationnels. Bien, il y a des codes là-dedans, c'est de l'information sensible qui peuvent appartenir à une compagnie ou okay. et tout ça. Donc, conséquemment, ces informations-là se retrouvent dans le bassin de données que l'algorithme d'intelligence artificielle utilise.
On ne sait pas trop qu'est-ce qui va être fait avec ces données-là. Là. C'est un point de début.
Exactement,
ouais.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Un autre enjeu, je ne sais pas si c'est un enjeu éthique, mais en tout cas, c'est assurément une préoccupation. C'est par rapport à l'intelligence artificielle, là, je pense que le réseau d'éducation, il est vraiment déstabilisé parce que ça remet également en question qu'est-ce qu'il faut apprendre. Maintenant, ouais. parce que tout d'un coup, là, il y a un paquet de choses que les robots... Là, je prends toujours l'exemple des robots conversationnels parce que là, c'est très, très chaud, mais il y a d'autres éléments aussi là, qui pourront apparaître. Bien, je veux dire, qu'est-ce qui est important d'apprendre maintenant si je peux faire rédiger des textes par un outil comme celui-là, si je peux lui faire générer des choses? Donc là... Qu'est-ce qui devient important? Donc, dans des analyses de situation de travail, là, c'est plus large. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être appris? Je pense que là, il va y avoir une forme de crise.
Il va falloir se réajuster
dans le monde des
questions. Là, pour...
C'est clair. Ouais. Il y a des domaines qui sont moins... Forcément, il y a des domaines plus techniques, plus manuels, où il y a peut-être moins d'enjeux par rapport à la pertinence ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais il y a d'autres domaines, entre autres en littérature, dans les sciences sociales, en informatique. Assurément, il va y avoir toute une réflexion qui devra être faite par rapport à ça.
OK. Comme CP... Comment on fait? Comment on gère ces enjeux-là? C'est quoi notre rôle?
Bien, notre premier rôle, c'est sûr, c'est de prendre connaissance de l'outil.
De s'y intéresser,
De s'y intéresser, puis de voir le potentiel, puis en même temps aussi ses dangers. Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs chapeaux. J'ai un chapeau de CP, CP programme.
Okay.
Donc, j'accompagne du personnel enseignant dans les programmes, mais je suis aussi CP responsable des technopédagogies. Donc, conséquemment, là, je joue sur les deux tableaux. Ça, c'est intéressant parce que dans un cas, par ma fonction, donc je m'y intéresse. Puis de l'autre côté, bien là, j'accompagne le personnel enseignant dans leur démarche évaluative, okay. dans leur démarche d'enseignement. Donc, la première chose qu'on fait, c'est que quand on rencontre les profs, souvent, ils vont venir nous voir puis ils vont nous poser des questions sur, bon, je veux faire ça, mais là, il y a ça, qu'est-ce que je devrais faire? Puis là, on est vraiment dans la question très pointue. Et ça, on y répond. Parce que le besoin qui est communiqué par l'enseignante ou l'enseignant, ben c'est ça, c'est une question précise. Par exemple, je fais un examen dans une salle informatique, je veux pas que les étudiants aient accès au robot conversationnel, qu'est-ce que je fais?
Ouais, c'est
là, on répond à une question très ponctuelle. Il y a un autre niveau où là, où des fois on a envie, dès le début, on a envie d'intervenir là, c'est de dire, OK, mais ta stratégie d'évaluation est-elle adéquate donné... le nouveau contexte.
Aller pousser un peu plus loin, le plus profond, parce que ça va être transformé. De toute façon, les stratégies d'évaluation, là, va falloir se questionner.
C'est ça. C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu évalues exactement? Qu'est-ce que tu as besoin d'évaluer? Est-ce que ton contexte de réalisation, ton évaluation est approprié, etc.? Donc, tu as besoin d'avoir une discussion, donc de faire un accompagnement individuel avec ces personnes-là.
Okay.
Ça, c'est un élément, là, donc, puis de questionner aussi la personne enseignante, dire, ben, OK, c'est quoi ton produit? C'est quoi ta production? Comment tu documentes ton processus? Comment tu documentes le discours ou le propos de l'étudiante ou de l'étudiant? Vraiment les amener dans un paradigme d'évaluation ouais. selon une approche par compétence.
OK. Bien, évidemment, les robots conversationnels comme ChatGPT, ça suscite beaucoup de craintes, là, des critiques. Mais c'est quoi le potentiel de ces outils en évaluation? Parce qu'il y en a quand même...
Potentiel, il y en a énormément. On l'a vu pour l'évaluation. Au début, on avait surtout la préoccupation, non pas la préoccupation, mais on s'intéressait plus sur les stratégies d'enseignement.
Oui.
Comment on peut l'exploiter dans mm-hmm. l'enseignement. Alors, on peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est un outil interactif. Je pense qu'au début, les gens avaient une façon de voir ce robot conversationnel-là comme étant quelque chose qui est un peu comme un agrégateur de contenu. C'est-à-dire mm-hmm. ça va chercher sur le web puis ça génère de bonnes réponses. C'est vrai, souvent, mais c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il y a un potentiel créatif très intéressant. Et ce que ça permet de créer, c'est des outils, ça permet de créer des situations interactives. Puis là, je vais donner des exemples là, pour illustrer. En psychologie, puis on le fait dans d'autres disciplines, on le fait en philosophie, on le fait aussi en histoire. On peut vraiment demander au robot conversationnel de jouer le rôle de quelqu'un.
Oh, okay,
et après ça, de lui poser des questions, d'être en interaction avec cette personne-là. Je peux donner deux, trois exemples. En histoire, on a créé une situation où les étudiants faisaient une espèce de grille d'entrevue, puis devait interviewer Jules César. Alors, on disait à ChatGPT, tu es Jules César, et je fais une entrevue, je te pose des questions, tu y réponds comme si tu étais Jules César. Et on pouvait avoir vraiment un dialogue.
Wow. Okay.
Et ça, c'est intéressant parce qu'après ça, tu peux te servir de ça comme un intrant pour un travail que les étudiants pourraient faire, par exemple, en histoire. On le fait en psychologie, où j'ai demandé à ChatGPT, je veux que tu sois un psychothérapeute dans telle école de pensée, je pense que j'avais dit freudien, et là, je vais te raconter un de mes rêves, puis je veux que tu m'aides à le comprendre. Et là, il s'est vraiment mis dans la peau d'un thérapeute, il me posait des questions, avec empathie, il me proposait des interprétations. Là, moi, je répondais à ça, est-ce que vous pensez que c'est juste, qu'est-ce qui s'est passé hier dans votre journée? Écoute, c'est extraordinaire.
Okay, wow.
On le fait aussi en soins infirmiers où j'ai dit à ChatGPT, tu es le rôle d'une patiente qui a été opérée pour le cœur. Donc, tu as fait un infarctus du myocarde, tu es dans la salle de réveil, et là, je vais te poser des questions comme une infirmière ou un infirmier le ferait. Puis là, je lui posais des questions, puis la personne me répondait comme la personne malade. Alors, ça te permet de créer des interactions. Donc, c'est un outil pour les étudiants, c'est un outil pour les profs aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Puis on peut l'utiliser, bien sûr, dans l'évaluation.
Ben oui, ça permet de faire des situations authentiques. Très intéressant. Merci beaucoup, Louis-Normand.
Ça m'a fait plaisir.
Qu'est-ce qui mérite vraiment d'être évalué? Je pense qu'il faut revenir à cette question essentielle dans les bouleversements qu'on vit en ce moment. C'est sûr que l'IA, ça peut faire peur, mais moi, je le vois comme un beau défi. Vaut mieux embarquer dans le train et s'y intéresser, sinon on risque de se sentir rapidement dépassé. Mais concrètement, on fait quoi? Encore une fois, je pense qu'il faut d'abord écouter les préoccupations des profs et bien cibler leurs besoins. Puis pour ce qui est du terrain de jeu, bien, les possibilités sont nombreuses. Ça nous amène à penser en dehors de la boîte et ça, bien, je trouve ça pas mal inspirant. Dans le prochain épisode, on parle de notre développement professionnel et de l'avenir de notre profession.
Les CP classiques là, qui ne touchent pas au numérique, là, pour moi, c'est terminé. Là. Cette époque-là est révolue.
Merci d'écouter ce balado et à bientôt.
Pour accéder au contenu et à la communauté d'Immersion CP, consultez la plateforme au www.i-immersioncp.ca. Au plaisir de vous y retrouver. La série Les Beaux Rôles est une production de Mémodia.